Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Deuxième hors-série de l'été dans Onward. Dans cet épisode, je vous propose d'assister à la conférence organisée par Veja à Bordeaux sur le coton. Si vous avez l'impression de maîtriser le sujet, vous allez pouvoir tester vos connaissances à la lumière de celles d'experts, Luciana et Orlando, venus respectivement du Brésil et du Pérou. Coton conventionnel, coton bio, agroécologie, agriculture régénérative, des pires aux meilleures pratiques, on vous dit tout sur l'or blanc et on illustre les solutions vertueuses avec l'exemple très concret des baskets Veja. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous. Si vous voulez bien, on va commencer. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Et bienvenue. Quelques informations pratiques avant qu'on commence. On a à peu près une heure d'échange, suivi de 15 minutes environ de questions, à la fois ici et des questions qu'on récupère de personnes qui nous suivent en live sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas si vous en avez. Et il va y avoir une traduction simultanée de nos propos par l'œil qui est ici. Voilà pour les questions pratiques. Mon nom est Victoire Sato, je suis la fondatrice de The Good Goods, qui est le média de la mode fondée sur des preuves. Des preuves, c'est-à-dire des choses que les marques de mode peuvent démontrer, qu'elles peuvent mesurer et dont elles peuvent témoigner, en particulier quand il s'agit de leurs engagements. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de modérer cette table ronde pour Veja. Et on va parler ensemble de coton. Le sujet peut vous paraître un petit peu simpliste, parce qu'on a l'impression de connaître cette matière. Et en réalité, peu d'entre nous savent que dans la majorité du coton qui compose nos vêtements, nos chaussures au quotidien, eh bien, derrière ce coton, il y a de l'exploitation humaine, du travail des enfants, de la corruption, des quantités pharaoniques de pesticides. Donc ça, c'est pour la partie pas très réjouissante de l'information. Aujourd'hui, on va essayer de parler des alternatives de gens qui ont décidé de faire les choses différemment. Et donc pour ça, on a la grande chance d'accueillir des personnes de terrain. Donc Lou, Luciana, Batista Pereira, qui nous vient du Brésil, et Orlando, qui vient du Pérou, Orlando Rivera, ainsi que François Guilin-Morillon, qui est le cofondateur de Veja. Je vais vous laisser vous présenter dans un petit instant. Donc ces personnes-là travaillent ensemble à faire des baskets qui sont différentes. Et ce qu'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui, on va essayer de vous faire comprendre en quoi cette économie complexe qui est globalisée, cette macroéconomie et cette macro-industrie du coton, conditionne le monde dans lequel on vit et dans lequel on vivra demain. Et que les choix qui déterminent ce monde sont faits par des êtres humains, à la fois dans les marques et sur le terrain, notamment dans les champs de coton. Voilà, on va pouvoir commencer. Lou, honneur aux dames, est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer, s'il te plaît, et nous dire quel poste tu occupes chez Veja?
Ok, so hello everyone. My name is Luciana. I'm Brazilian and I am setting a mother. Like my daughter has like 3 years old and when it's possible she's also in the field with me. And nowadays, I'm the head of the sourcing department at Veja. I'm leading the cotton project, the rubber project, and other news one. And it's a pleasure to be here talking to you. And I usually say that my mission in Veja is to show the people, the family that are working behind our shoes. So thanks for the opportunity.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Luciana Batista Pereira. Je arrive du Brésil. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans qui me rejoint dans les champs coton dès que possible. Je suis actuellement directrice de sourcing pour Veja, pour, autant pour le coton que pour le caoutchouc. Et très content d'être parmi vous et d'expliquer un peu la mission. Je résume toujours être la mission de montrer les personnes et les familles qui sont derrière les produits qu'on fabrique.
Alors, Lou, tu as une grande expérience dans le sourcing en général. Tu as travaillé pour diverses marques de textiles, en particulier dans le coton. Est-ce que tu peux peut-être simplement commencer par nous expliquer ce qu'est le coton, où est-ce que ça pousse et quels sont les différents endroits où on cultive du coton en France, dans le monde, pardon.
Yeah, so cotton is a natural and a very hard fiber, and it's originated from India. But we know that cotton is used for a long, long time, like 3,000 years before Christ. And we usually say that cotton is a very resistant and resilient plant, so we can find cotton in different places, unless in places where we have like a lot of water. So in places where we have a lot of water, you cannot like find cotton. And in Brazil, only for you know, like cotton is known as a white gold because it's linked with the economic, it's economic driver. But at Veja and with the farmers that we are working with, we usually say that the cotton, it's much more than economic driver. It's also like represents the family unity and also this knowledge that working in the field.
Donc le coton est un fibre naturelle, une fibre très durable, qui proviendrait de l'Inde, en quoi, mais on sait que c'est en utilisation depuis au moins 3000 ans avant Christ, donc 5000 ans. Une plante très résistante, très résiliente, qui pousse un peu partout, sauf où il y a trop d'eau. Donc quand on n'aime pas être trop irrigué. Au Brésil, on l'appelle des fois l'or blanc, pour sa puissance économique. Mais Veja, on aime dire que ce n'est pas seulement un levier économique, c'est aussi... C'est quelque chose qui nourrit des familles et il y a tout un héritage, un savoir-faire derrière.
Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques données sur ce que représente le coton dans l'univers du textile et de la mode en général comparé à d'autres fibres ?
Yeah, like cotton is used in the textile sector for a long, long time, but in the last 20 years, like we can see the synthetic fibers like growing a lot. So the fibers made by fossil fuel. And nowadays, this type of fibers represent at least 70% of the textile sector. And cotton represents more or less of 20% of the textile sector. And if you go deep in the organic cotton, it represents like less than 2% in the textile sector.
Oui, donc comme j'ai dit, le coton est utilisé comme tissu depuis très longtemps. Depuis à peu près 20 ans, on voit de plus en plus de tissus synthétiques sur le marché, qui sont à base de pétrole, simplement, qui comptabilisent maintenant plutôt plus de 70% du marché textile mondial. Le coton comprend 20% de ce marché, et pour le coton bio, ce serait au maximum 2%.
Donc, il y a différentes manières de cultiver le coton. Tu l'as dit, pour vous, au Brésil, ça conditionne tout un écosystème. Il y a des considérations sociales, économiques, écologiques derrière la culture du coton qui est utilisée par Veja. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout type de coton cultivé dans le monde. Donc, tu l'as dit à l'instant, 20% du coton, plutôt le 20% de l'ensemble des matières utilisées dans la mode est représenté par le coton. Et parmi ce pourcentage, seulement 2% concerne le coton biologique. Et dans le coton biologique, il y a encore différentes familles avec différents niveaux d'engagement. On a d'abord donc, le coton bio, le coton cultivé en agroécologie et le coton régénératif. Dans cet ordre-là, en fait, les engagements se renforcent. Est-ce que tu peux assez simplement nous illustrer les différentes méthodes de culture de ces trois types de coton ?
Yeah. So, like, the most common cotton that you will find is the conventional cotton. And what does it mean? It means, like, huge piece of land with cotton. So you will see, like, the land with a lot of cotton. And normally, like, with GMO, like, genetically modified seeds. And I don't know if you know, but the cotton nowadays in the agriculture sector is the crop that uses the most of pesticides. So when you are buying like a t-shirt made by 100% by cotton, you just need to know if it is organic or a conventional cotton. And then moving for the organic cotton, like organic has like a environmental like issue. So when we are producing organic cotton, we are producing a cotton without chemicals, without GMOs, without like genetic modified seeds. So you have this environmental approach. And when you go move for the regenerative and also for the agroecological cotton, the one that we are working in Brazil and also in Peru, we have also the organic production. So we are also like taking care of the environment, but we are also going deep in the family unity. So we have like all the work that we are doing with the farmers, with the cooperative. So we usually just say that the regenerative and agroecological cotton has this like holistic approach.
Oui, donc le format de coton le plus répandu dans le monde va être ce qu'on va appeler le coton issu d'agriculture conventionnelle. Ça, normalement, ça représente des énormes plantations à perte de vue avec des semis de OGM, de modifiés génétiquement. Le coton, c'est le fibre qui utilise la culture qui utilise le plus de pesticides. Donc regardez bien quand vous achetez un t-shirt qu'il s'agit de coton bio, parce que sinon ça utilise beaucoup de pesticides. Ensuite, la catégorie suivante, c'est le coton biologique, où il y a zéro chimie, zéro produit chimique et zéro OGM. Le niveau supérieur sera le coton régénératif, ce qu'on utilise chez Veja. Ça garde bio, ça met évidemment les exigences bio, mais en plus, il y a une dimension sociétale. C'est tout le travail qu'on fait avec les coopératives, avec les agriculteurs, avec les familles. Ce qu'on appelle une approche holistique de la culture du coton.
On va revenir en détail sur cette approche holistique après avec des illustrations très concrètes de votre travail au quotidien. Quand on s'intéresse un petit peu à la culture du coton, donc de façon très schématique, on l'a dit à l'instant, il y a le avec et sans OGM, avec et sans pesticides, avec et sans irrigation supplémentaire en dehors de l'eau de pluie. Et donc forcément tout ça a un impact sur le rendement. Évidemment le coton biologique a un rendement qui est inférieur au coton conventionnel. A un impact également sur la qualité des sols et la qualité du sol tel qu'on le laisse après la culture. On comprend que le coton biologique et plus loin le régénératif a tendance à plutôt nourrir le sol et à le restaurer, le régénérer, tandis que le coton qui utilise des pesticides a tendance à le détruire. Quand vous avez lancé Veja, François Guinin, je me retourne vers toi, est-ce que vous aviez notion de ça ? Qu'est-ce qui fait que dès le début, vous êtes allé chercher du coton alternatif?
Alors, on va revenir en arrière du coup. On est en 2004. On a l'idée, avec Sébastien qui est dans la salle, d'aller produire des baskets qui respectent l'homme et l'environnement. C'était vraiment l'idée de départ. Et en fait, on liait quand même déjà les deux, puisqu'on se doutait quand même que derrière des projets écologiques, il y avait des gens et il y avait des histoires humaines. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a été attiré par le Brésil parce qu'il y avait tous les ingrédients pour faire des baskets. Donc on voulait faire des baskets en toile avec des semelles en caoutchouc. Donc il y avait et du coton et... en effet, il y a des très grands champs de coton mécanisés, GMO et tout. Mais on savait qu'il y avait aussi des petits producteurs organisés en coopérative. Et il y a du caoutchouc. Naturel et plus qu'encore que naturel, sauvage, puisqu'il y a l'Amazonie où le caoutchouc pousse à l'état sauvage. Et donc on a été attiré par le Brésil, et c'est vrai qu'on est allé chercher des matières et finalement on a rencontré des gens. On est tombé amoureux de gens, quoi, d'histoires. Et c'est tout à fait ce que dit Luciana quand elle dit c'est pas que l'or blanc ou un produit écologique, c'est en fait. Comment ce coton bio, agroécologique arrive dans nos vies? Il arrive à travers un agronome qui s'appelle Pedro Jorge, qui a introduit le coton, dans des familles pauvres du Nord-Est. Et du coup, c'est un projet social. Enfin, c'est-à-dire que c'est écologique et social en même temps. C'est comment ces familles qui vont planter du coton, mais aussi du maïs, du haricot, donc des produits de subsistance, pour avoir une indépendance financière, vont planter du coton en plus pour avoir un complément de revenu pour pouvoir acheter des choses pour leur famille. Donc tout de suite, on rentre dans une histoire qui est bien plus personnelle et humaine que juste il y a des pesticides, il n'y a pas de pesticides. C'est vrai que derrière le mot bio, on a l'impression que c'est juste il y a des pesticides, il n'y en a pas. En fait, c'est un petit peu différent. C'est la façon dont on va produire, quelle est l'histoire qu'on va construire. Et donc, c'est pour ça que la notion de famille est importante. On est dans une agriculture familiale où les choses sont faites pour améliorer le bien-être de la famille.
Je pense que pour bien se rendre compte de la différence entre Veja et une marque conventionnelle et une manière de produire, il faut déconstruire un tout petit peu ce qu'on appelle la chaîne de valeur d'un produit, donc d'une basket, et comprendre qu'à partir de cette fleur de coton, pour arriver jusqu'à une basket, il y a tout un tas d'étapes qui sont très intermédiaires. Donc le coton va être ramassé, il va être transformé en fil, parfois il est teint, ensuite il est transformé en tricot ou en tissu. Et bien souvent, les marques conventionnelles n'ont aucune idée de l'ensemble des acteurs qu'il y a sur cette chaîne de valeur. Je vous invite d'ailleurs à regarder le cache investigation à ce sujet qui le montre très bien. C'est ce qui permet aux marques de se défausser en fait, de leur devoir de vigilance, de responsabilité, en disant « je ne savais pas puisqu'il y a trois intermédiaires entre moi et la personne à qui j'ai acheté le coton. Et donc, ce n'est pas ma responsabilité s'il y a des pesticides ou des enfants qui travaillent dans les champs. » Est-ce que tu peux nous parler de... Justement, vraiment précisément, vu que tu es en contact avec d'autres marques, la façon dont ces marques-là travaillent et comment fonctionne habituellement une chaîne de valeur dans la mode conventionnelle qui représente la grande majorité des vêtements qui sont produits aujourd'hui.
Bon, alors moi, j'ai jamais travaillé pour d'autres marques, parce qu'on a monté notre boîte juste après avoir fait nos études et avoir voyagé un peu. Mais en fait, on voit, parce qu'en effet, on voit les commandes qui sont passées, par exemple, dans les usines avec lesquelles on travaille. En fait, une marque normale, entre guillemets, elle donne un cahier des charges à son fabricant. Voilà, je veux faire cette chaussure avec du coton. D'ailleurs, parfois du coton bio, mais bon, en général, plutôt voilà, du coton conventionnel. Enfin, voilà, je veux sortir cette basket à tel prix. Le fabricant va voir ses fournisseurs de tissus. Il va commander le tissu. Et finalement, la marque ne va pas aller plus loin. Elle va juste demander à son fabricant, donc à l'usine de basket, de lui livrer la chaussure avec tel tissu. Et même pour des marques qui fabriquent parfois en bio, elles ne vont pas... l'usine va leur dire, voilà, j'ai trouvé un fournisseur qui a du coton bio, il y a le label, très bien, c'est bon, on s'arrête là. C'est-à-dire on s'arrête à la matière, on ne va pas aller rencontrer les gens qui sont derrière. Nous, c'est vrai qu'on est parti un peu de l'opposé, parce qu'on est parti... On voulait connaître les producteurs. On avait cette envie-là. Après, c'est notre envie. C'est pas une nécessité. C'est-à-dire qu'on avait envie de voyager, d'aller rencontrer les gens qui plantent. On voulait un peu déconstruire justement qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui se cachait derrière ces matières. Donc, aller rencontrer les gens. Donc, c'est comme ça qu'on est allé voir les producteurs de coton, voir les producteurs de caoutchouc. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun. Et je pense qu'en fait, c'est là où est la plus grande valeur ajoutée finalement. Enfin. Je sais que j'ai participé parfois à des rencontres où il y avait des gens de grandes enseignes qui essayaient d'aller vers du bio, d'aller vers du commerce équitable, et en fait qui ne comprenaient pas ça, qui voyaient juste le « ah mais c'est cher, il va falloir payer plus cher le coton et tout, c'est pas possible, nos t-shirts vont sortir, machin et tout ». Et je leur disais « mais ne pensez pas d'abord à ça, allez sur le terrain, allez voir emmenez vos équipes et vous allez comprendre en fait que c'est nécessaire de changer, et vous allez le faire pour des bonnes raisons, vous allez le faire parce que vous allez avoir envie de le faire, parce qu'en fait c'est assez génial ce que font ces gens, donc c'est prendre un peu une autre logique en fait, pas se dire il faut faire du bio parce que les pesticides c'est mal, mais se dire comment fonctionne l'agriculture biologique, c'est génial, allons-y quoi. C'était vraiment, on est parti comme ça en fait.
Alors quand on t'entend, effectivement ça fait envie, on se demande pourquoi plus de marques n'y vont pas, et je pense que tu l'as dit, le bas blesse au niveau du prix, c'est la question qui fâche. Est-ce que, Lou, pour bien qu'on comprenne, tu peux nous expliquer quelle est la différence entre la façon dont le prix du coton est fixé au Brésil en général et la façon dont procède Veja ? À quoi ça les engage par rapport aux agriculteurs ?
Well, like in Brazil, in the beginning of the year, so before the planting time, we sit with all the farmers. So we are working with around 1,200 farmers. And together we analyze like the living costs from the last year. So we are always like basing to discuss the pricing, considering the living costs. And together, like we define like a price. So before they start to plant, they know exactly like the price that we are working with. So in Brazil, we are not like looking cotton as a commodity. So it's something that we are discussing directly with the farmers. And then what we do that we know that between the farming, the planting to the harvest, there is like a long time. So what we also do that we agree with the farmers that we can pay in advance. So in the middle of the season, if they want, they can ask Veja if we can pay like at least 60% of the price. So they have the guarantee that they know the price that we will pay, and they can also like ask us to pay in advance. So this is the way that we are building like year by year the price. And only for you have an idea, like last year we increased our price like 30% from the last one. So we are always like increasing the price because we know like the living costs is also increasing.
Oui, donc c'est un processus d'année en année. Ça commence au début de l'année, avant même que les agriculteurs ont planté le coton. On se réunit avec nos agriculteurs, on travaille avec 1200 agriculteurs au Brésil. On analyse leur coût de l'année précédente, leur coût de production, mais leur coût de vie aussi. Et puis on fixe ensemble un prix. C'est avant qu'ils aient planté, avant que la saison ait démarré. Parce qu'on sait que le coton n'est pas une matière première comme une autre. Et la période entre le semis et la récolte étant très longue, on peut payer un acompte si les agriculteurs le souhaitent. On peut payer jusqu'à 60% du prix du coton pendant la saison. Et pour vous donner une idée, l'année dernière, on a augmenté le prix de 30%. Le prix par kilo était de 30% supérieur à ce qu'il avait été l'année précédente. Et c'est genre ce qu'on cherche à faire. On sait que le coût de la vie augmente, donc le prix du coton augmente aussi.
Donc c'est une sécurité financière pour eux. Ils sont également moins tributaires de fait des conditions météorologiques, des aléas climatiques qui peuvent faire varier la récolte. Et d'un point de vue social, qu'est-ce que ça représente comme sécurité en plus pour les agriculteurs et leurs familles?
Well, besides the discussion about price, we also pay a premium for each farmer and also for the cooperative. So when we are discussing the premium, we divided like this amount for farmers and also for the cooperatives, and they use this resource to improve the collective action. So, for example, for you know, like last year, one cooperative used this money, this resource, this premium to buy a ginning machine. Another one used to rebuild their office. So they also have this social like security to use like year by year.
Oui, il faut savoir aussi qu'en plus du prix, en dessous du prix, on paye chaque année une prime à chaque agriculteur et une prime à chaque coopérative d'agriculteurs. Ça permet de financer leurs actions collectives. Pour vous donner des exemples, l'année dernière, une coopérative a utilisé cet argent pour payer une machine égraineuse et une autre a utilisé pour renouveler ses bureaux. Donc c'est une sécurité financière en plus.
Oui, le fonctionnement coopératif que tu décris est quelque chose de pas commun dans l'agriculture du coton. Et ça conditionne ce côté fédérateur et la solidarité qu'il y a entre les acteurs qui peuvent aussi partager leurs bonnes pratiques, se donner des conseils et se soutenir. C'est bien ça?
Yeah. Like they are supporting each other and then are also like exchanging a lot of knowledge between them, you know? So we usually say that we are like strengthening this collective action and also promoting the agroecological cotton in Brazil.
Oui, absolument. C'est une question de soutien mutuel, mais aussi d'échange de pratiques, de connaissances. Et nous devons croire qu'on contribue à renforcer cette action collective et à renforcer l'agriculture brésilienne dans son ensemble.
Alors, Veja a bien grandi, notamment ces dernières années. ce qui est une bonne nouvelle. Et donc avec cette croissance est venue la nécessité de sourcer ailleurs davantage de coton. Pour ça, il a fallu traverser la frontière du Brésil vers le Pérou. Et je me tourne vers toi, Orlando. Au Pérou, il y a une autre façon de procéder, une autre organisation, d'autres types de certifications dont tu vas nous parler. Mais avant ça, c'est intéressant qu'on fasse un point sur l'historique de ta famille, qui est dans le textile depuis des années, et peut-être ton historique professionnel personnel, qui au départ ne te destinait pas forcément à être le PDG de Bergman Riviera. Tu peux nous en parler ?
Yes, hello everyone. Thank you, Veja, for inviting us. My name is Orlando Rivera. My history of cotton began with my family several years ago in the 80s. My father worked for a textile mill. He was a commercial manager. And the mill went bankrupt in the 80s, and he was left without a job. So, seeking a new opportunities, he decided to become a cotton broker. So he started selling yarns to Europe together with different agents, which he had in the previous company, but that didn't have the raw material. So looking for an answer, he started to visit European countries together with his agents in order to promote the sale of yarns.
Oui, voilà l'histoire de ma famille. L'industrie du coton remonte aux années 80. Mon père travaillait pour une usine de tissus au Pérou, était commercial. La boîte a fait faillite, il s'est retrouvé au chômage. Il a décidé donc de se lancer dans être marchand courtier de coton. Et c'est comme ça qu'il a commencé à parcourir l'Europe avec un partenaire en cherchant des marchés pour vendre ses fils.
Et à that time, his Swedish agent called Stefan Bergman, who traveled also all the world, had this vision that cotton was a very toxic commodity and that brands and mills and everyone couldn't find the cost of cotton cheap enough. So there was always pressure on the farmers to get the lowest quality and the cheapest cotton available because it was the weakest part of the link, the one that you can continue pushing. So he believed that there was a different way of doing this. And he started to visit Peru and talking to farmers, and this is in 1980, 86, 87, one by one, and convincing them to go back to their roots, convincing them that all this idea of using chemical pesticides and getting higher yields was not good for their health, was not good for their economy or for the planet. So he convinced them to go back to the way their ancestors used to farm. And he believed that these people was actually the right crowd to preach to because they did know how to do things in a natural and organic way.
Oui, aussi dans les années 80, un partenaire de mon père, un Suédois, l'agent suédois, M. Bergman, il a vu à quel point le coton était un matériel toxique. Parce qu'il semblait avoir un roué vers le bas niveau qualité. L'industrie demandait du coton, encore plus de coton, encore moins cher. Ils se sont foutus de la qualité. Et ça exerçait une pression très forte sur les agriculteurs qui n'avaient pas le pouvoir de résister. Vers 86-87, il a essayé qu'il y avait sûrement une meilleure façon, une façon différente de faire. Il a commencé à travailler avec des agriculteurs au Pérou et essayer de leur persuader de retourner à leurs racines. À voir que les pesticides, leur rendement, etc., étaient mauvais pour l'écologie, mais aussi pour leur santé et pour l'économie plus largement. Et était convaincu que c'était le bon endroit pour commencer parce que c'était des gens avec une vraie culture. Leurs ancêtres avaient cultivé depuis longtemps le coton. Il y avait un vrai héritage, un savoir-faire.
Okay, so to continue the story, at the beginning of the 90s, they managed to obtain the first organic certified cotton in Latin America and probably one of the first in the world. Working with 50 farmers in the south of Lima. And from there, they started producing yarns in a more ecological and fair way also. And that's basically the story of the company and of my family. In my case, I was always surrounded by these stories, visiting farmers, knowing genes. But my story was more related to finance. I studied finance, I studied economics, I went to the USA to study more finance. I ended up in banking in Manhattan until one day in 2007, my father called me and said, you know what, I want to retire. Do you have any interest in looking at what we are currently doing as a company in Peru? Or do you want to follow your banking career? At that time, I realized that actually what I was doing was exciting, but I was not contributing anything to society doing banking in New York, and that I could manage a company by myself in Peru and actually give back to the people of my country and give them opportunities to grow together, me towards a business that will fulfill me and doing the social part and doing something that will be good for the environment. So we started the company as Bergman Rivera in 2007 with me as the CEO and being the owners of the company, my father and his Swedish agent, and that's why our company is called Bergman Rivera.
Oui. Donc, pour avancer dans les années 90, on a commencé à produire, ma famille, l'entreprise familiale, le premier coton certifié biologique en Amérique du Sud, et peut-être l'un des premiers au monde, travaillant avec 50 agriculteurs au sud de Lima. On a commencé à filer du coton avec eux. Ça a bien grandi avec plus de fermes, plus de business. Moi-même, j'ai grandi dedans, j'ai toujours été entouré de ça, de l'industrie familiale. Mais j'ai choisi notre parcours, j'ai étudié les finances, l'économie. Je suis parti faire des études aux États-Unis. J'ai fini par travailler pour une banque à New York, à Manhattan. Jusqu'au jour en 2007 où mon père m'a appelé, il m'a dit qu'il pensait prendre sa retraite. Est-ce que je serais quand même intéressé de revenir au Pérou, voir comment il travaillait? Ou est-ce que je voulais continuer ma carrière de banquier? Et je trouvais ce que je faisais passionnant à la banque, mais je me rendais compte que je contribuais absolument zéro à la société et qu'au Pérou, il y avait une occasion de faire quelque chose de positif, positif pour moi personnellement, mais aussi quelque chose de positif pour la société, mon pays et pour l'environnement aussi.
Merci beaucoup. Alors depuis 2007, tu as repris l'entreprise et les engagements n'ont fait qu'augmenter. Vous allez vers davantage de contraintes en matière d'agriculture biologique et maintenant de régénératif. Avant qu'on en parle en détail de ce que ça implique, est-ce que tu peux nous parler des certifications existantes dans le coton bio dans le monde auxquelles on peut se référer en tant que consommateur ?
Okay, certifications is basically a way to demonstrate that what you are actually doing in the field complies with certain norms. So cotton is a vegetable, so it's the same certification to be organic cotton is the one that you need for a tomato, for a potato, and it's based on the norms of different countries. You have USDA norm, which requires 4 years of conversion of the land from conventional towards organic in order to get the certificate. You have the European certification, you have the Japanese, every country has its own field certification. Most countries accept the European and the USDA certification, but others, as China for example, you can't sell anything labeled organic in China if it's not audited by Chinese auditors in the country where it's produced. So at the end, it's a mixture of different things, but the norms are more or less the same. Do not use pesticides, GMO, insecticides, etc., and have a fair treatment to the people that are involved in the process.
Oui, donc les normes, c'est quoi les normes? C'est une façon de montrer, des certifications, c'est une façon de montrer patte blanche pour montrer que ce que vous faites dans les champs correspond bien aux normes en vigueur dans le pays. Le coton, c'est comme d'autres légumes, comme des fruits et légumes même, comme une tomate ou une pomme de terre, c'est un produit qu'il faut cultiver. Et les normes précises varient de pays en pays. L'USDA, c'est les normes américaines, ça demande 4 ans de conversion de
de l'agriculture conventionnelle vers la biologique. Mais il y a d'autres systèmes de référentiels en Europe, au Japon. La plupart des pays acceptent les normes américaines, les USDA, avec une grande exception étant la Chine, où vous ne pouvez pas vendre un produit comme étant biologique en Chine s'il n'a pas été audité en Chine par les auditeurs chinois. Ceci dit, les normes ne varient pas trop sur la base de pays en pays. Les principes sont les mêmes. Il ne faut pas utiliser de pesticides, pas d'insecticides, pas d'OGM, et de respecter la vie des travailleurs.
Donc on a fait le choix de ne pas vous assommer avec des labels et des certifications, parce que finalement, ce qui est important, c'est vraiment cette notion d'engagement dans le temps long. Et la conversion dont on vient de parler, Orlando, c'est un processus forcément pour passer d'un champ qui a été rempli de pesticides à un champ bio, puis à un champ régénératif. Ça demande des investissements, du temps, des convictions, en particulier de la part de dirigeants et de marques partenaires qui font confiance et qui investissent aussi pour ces conversions. Est-ce que tu peux nous dire, Orlando, pour quelles raisons donc, toi, tu décides de renforcer les contraintes, d'aller vers le régénératif, et en particulier donc, la certification qui s'appelle ROC, et quels sont les piliers de cette agriculture régénérative ?
Yes, of course. I don't know if many people here are familiar with the term regenerative, but the idea of regenerative organic agriculture is to go one step further from what we are doing in organic. It's estimated that by the year 2050, approximately 30% of the land on Earth won't be usable for agriculture anymore. Due to intensive agriculture, we are planting the same crops over and over again in the same fields, so the land gets exhausted. It takes out the same nutrients out of the earth for years and years and years, and that's not sustainable anymore. Doing organic agriculture is no longer a solution. We need to start recovering all the land and all the damage that has been done during the last years.
Oui, absolument. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec le principe de l'agriculture régénérative, mais c'est un niveau au-dessus du bio. On estime que d'ici 2050, 30% de la planète sera inutilisable pour l'agriculture parce que trop démunie par l'agriculture intensive. La façon dont on procède depuis des décennies, on en plante trop les mêmes produits au même endroit et ça extrait les ressources de la terre et ce n'est pas durable. Il ne suffit plus d'être bio, de travailler en bio, et il faut maintenant commencer à réparer les dégâts qu'on a causés.
So, the pillars of regenerative agriculture are three. It's based on the environment, which is basically soil, water, and air, on livestock, treating well the livestock that you have on your farms, and the social part. In the environmental part, the idea is to try and retain the carbon dioxide that is in the atmosphere. So, as you know, the plants retain CO2 and keep it in the earth, down in the earth. But the problem is that when you have crops like cotton that you replant every year, when you till the land, you release the carbon dioxide that you have been capturing. So the idea is to be less invasive. In that same way, by being less invasive, we can retain more water because it's not evaporating. And by improving the quality of the soil, it also retains more water. So it's a holistic way of looking at agriculture in a completely different way as it has been done since the 1950s, which the only objective is to obtain the biggest quantity of crop from the land, but without looking at what you are doing to the earth and damaging it.
Oui, donc il y a trois piliers de l'agriculture régénérative environnementale. Le premier, c'est la qualité du sol, de l'eau et de l'air. Le deuxième pilier étant le bien-être animal. Et le troisième, côté social. Pour le côté environnemental, ce qui est très important, c'est penser au stockage de carbone, parce que les plantes, comme vous savez, sont un puits de carbone naturel. Mais avec une plante comme le coton, qu'on replante d'année en année, en travaillant la terre, on libère du CO2. Donc l'idée, l'objectif pour nous, c'est de travailler de façon moins invasive, ce qui nous permet aussi de ne pas libérer l'eau, de garder plus d'eau dans le sol. C'est une approche holistique
du sol, de la santé de nos sols, ce qui représente vraiment un changement de paradigme. C'est complètement différent depuis la façon dont on a travaillé en agriculture depuis les années 50, qui était obnubilée par le rendement, sans penser aux dégâts qu'on causait pour le long terme.
And the other two, the social and the livestock. In terms of livestock, it's basically keeping biodiversity in the land. In our case, we don't have many animals on the farm, so we are not focused on that. And the social part is give a sense of community to the farmers. Put them in a community, create a fair trade committee, receive premiums that they will use towards the development of the community itself, and empower them to make something greater from what they are doing. Train them, make them believe in themselves, hiring people from the same community to do the same jobs, etc.
Oui, côté animal, le deuxième pilier dont je vais parler, c'est nourrir la biodiversité. Nous n'avons pas beaucoup d'animaux sur nos fermes, donc ça ne touche pas tant que ça. Mais pour le pilier social, comme prend très au sérieux, c'est une question d'intégration sociale, c'est de travailler en commerce équitable, de développer l'autonomie de nos travailleurs, de nos familles de travailleurs, avec la formation et toutes les actions qu'on mène pour leur donner le pouvoir.
Pour bien se représenter ce que ça signifie en termes de travail et d'organisation, le Bergman Riviera, c'est une grosse entreprise. Les farmers, les agriculteurs sont répartis un petit peu partout dans le pays. Donc c'est vraiment un travail de terrain d'aller les convaincre, de leur expliquer quels sont les intérêts économiques, les avantages sociaux, de fédérer. Et quand on préparait cette table ronde, tu m'as parlé en particulier d'un des arguments, alors qui était plutôt dans la conversion vers le bio au départ, qui était celui de la santé. Je pense que c'est un exemple qui permet d'illustrer de façon assez marquante dans les esprits ce pourquoi c'est très important, concrètement, d'aller vers ces solutions qui sont meilleures pour la planète et pour les êtres humains qui travaillent dans ces champs de coton.
No, it's the basis, and actually it's very difficult to start convincing a farmer to change from what they've been doing all their life to do something different due to the benefits that you are offering, but at the beginning they didn't believe, no? The first is the hell. When you spray the pesticides in the field, the farmers get 50% of the pesticides that are being sprayed. It's not like in first world country that they have suits, or that there are machines that spray. They just prepare the things by themselves, putting in a backpack and spray it all over the place. So the difference in health is dramatic that they see immediately. And the difficult part about that is that the components of the chemicals being used in the farms are sold by these companies that market it as high-tech products. When it's the same products that have been used for the past 70 years and are not very sophisticated products. They're products that are very dangerous, and most of them are prohibited in other countries. And so the other thing is when these farmers nowadays see the benefits that they obtain in terms of health, money, community, training, funding, better management of their fields, now most of the farmers come to us. They want to be part of our program because they see what their neighbors are obtaining. So it switched completely in the past 20 years.
Oui, mais au début, en fait, c'est difficile. C'est souvent difficile de persuader un agriculteur de changer les pratiques qu'il a utilisées depuis toute sa vie. Parce que vous, qui ne connaissez pas, arrive avec des soi-disant bienfaits. Et on commence par nous focaliser sur les pesticides. Il faut savoir que 50% des pesticides répandus par les agriculteurs coton au Pérou, c'est l'agriculteur qui va le recevoir. Parce que ce n'est pas comme dans certains pays développés où c'est très robotisé ou c'est très protégé. C'est fait de façon très artisanale. Ils mélangent et puis jettent ça sur le coton. Donc, dès qu'on commence à arrêter, à enlever ces pesticides, on voit des résultats dramatiques et immédiats pour la santé. Et surtout, c'est des produits chimiques qui sont vendus par des multinationales en étant des produits de technologie qui va aider l'agriculteur. Mais en réalité, les mêmes produits, les mêmes ingrédients chimiques qui sont utilisés depuis 70 ans. C'est pas très sophistiqué. C'est dangereux et beaucoup d'autres pays sont déjà interdits à la vente.
Donc voilà, on leur donne des résultats immédiatement visibles sur leur santé, en plus avec l'argent supplémentaire, l'amélioration de la qualité des sols, etc. Tous les avantages qu'il y a. Maintenant, puis à un moment déjà, la tendance est inversée et c'est les agriculteurs qui viennent vers nous pour demander à faire partie du projet.
Ce qui est une bonne nouvelle. Et les marques aussi. Côté Veja, est-ce qu'on peut avoir un petit témoignage de la façon dont s'est passé votre démarche et le début de la collaboration avec Bergman Rivera? Pourquoi est-ce que vous êtes allé spécifiquement vers Orlando, vers le régénératif? Et également peut-être un mot sur ce à quoi ça vous engage, puisqu'on l'a vu, il y a des coûts supplémentaires, des coûts additionnels qui sont supportés aussi par les marques pour aller vers cette certification qui coûte cher à mettre en place.
Alors nous chez Veja, on travaille avec du coton brésilien agroécologique depuis le début, en fait, donc depuis les premières rencontres dont je vous ai parlé en 2004. Et ce qui est d'ailleurs génial, c'est qu'on travaille avec toujours les mêmes familles. Alors évidemment, au début, il y avait quelques familles, il y avait une trentaine de familles. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Donc quand Luciana disait on rencontre toutes les familles, en fait, on rencontre toutes les coopératives parce qu'on ne peut pas rencontrer les 1000 familles. Et donc voilà, ça s'est fait petit à petit au fil des ans. Et on a donc fait grandir ce projet au Brésil avec plein de partenaires, des ONG, le gouvernement à un moment où il était plus favorable à ce genre d'initiative. Mais malgré finalement cette croissance organique du projet, on avait quand même besoin de plus de coton. Donc à plusieurs reprises, c'est marrant parce que Orlando s'est rappelé de ça, les premiers mails qu'on s'est envoyés, les rendez-vous un peu ratés, est-ce que tu as du coton, on a besoin de 5000 kilos, et puis finalement on n'en avait pas tant besoin que ça, et donc on a eu quelques années comme ça à s'envoyer un peu des mails, sans se rencontrer, et puis un jour on s'est dit bon bah on va vraiment y aller, en fait on va faire le voyage, et donc on s'est retrouvés au Pérou, et on est partis assez nombreux d'ailleurs avec une grande équipe, et on a voyagé avec Orlando, on est allé voir différentes fermes, et ensuite on s'est dit ok, ça c'est un partenaire tel qu'on en rêve. À l'époque, il n'y avait pas encore le projet du coton régénératif, donc c'était il me semble en 2018 si je ne me trompe pas, qu'on a commencé vraiment à acheter le coton bio, et l'année dernière Orlando vient nous voir à Paris et nous dit là j'ai ce projet de lancer le coton régénératif, est-ce que ça vous intéresse? Moi j'ai dit mais évidemment, mais il y a quand même un coût, hein, il va falloir débourser, et donc c'est en fait $1 par kilo qu'on désire acheter, donc qu'on met dans le contrat. Donc nous, on a signé pour 50 000 kilos, donc $50,000, pour payer toutes les formations sur l'agriculture régénérative. Il y a aussi du compost, donc il y a un processus mécanique qui est mis en place. Enfin, voilà, il y a des investissements qu'a fait Bergman et auxquels nous, on participe, de même que d'autres marques, dont Patagonia, qui est juste à côté, qui fait partie de la même aventure. Donc voilà, là c'est vraiment Bergman qui a été moteur, et nous quand on a entendu ça, on a dit mais c'est génial, on veut évidemment participer à l'aventure. Et ce qui est génial, c'est que du coup quand Luciana, quand Valdenira, quand on a toute une équipe qui suit les producteurs de coton, mais du coup maintenant ils ont des familles un peu référentes, qui sont les familles qui sont sur ce projet régénératif, qu'elles peuvent visiter, voilà. Et donc on tisse aussi un lien social, ce dont je parlais et qui a été très important pour nous au Brésil, de se lier d'amitié avec les gens, parce que finalement on se lie d'amitié avec nos clients, et je vois qu'il y a un de nos clients dans la salle. Enfin, le commerce c'est quand même aussi des histoires, c'est des histoires humaines, et donc voilà, on se rencontre, et une fois qu'on se connaît et qu'on s'apprécie, mais on a qu'une envie, c'est de faire des choses ensemble, quoi. Donc ça s'est passé assez simplement avec un voyage et ensuite des rencontres. On se voit au Pérou, on se voit en Europe, parce que Orlando participe beaucoup au Textile Exchange, qui est une organisation mondiale qui réunit tous les producteurs et toutes les marques qui utilisent le bio dans le monde. Et du coup, c'est aussi des moments où on se retrouve et on échange des idées, des pratiques. Nous, on aimerait bien, par exemple, emmener des producteurs brésiliens au Pérou pour qu'ils découvrent ces techniques qu'ils ne connaissent pas forcément, enfin, voilà, ce genre de choses.
C'est chouette de voir que ces interdépendances et ces relations entre les pays ont été initiées finalement par Veja. Il y a des partages de bonnes pratiques. qui se font, des inspirations mutuelles. Et je crois, Orlando, qu'au départ, quand Veja a approché Bergman Rivera, tu étais assez surpris de leur volonté, justement, de rentrer dans une relation de proximité, de vouloir venir visiter finalement ce qu'ils faisaient au Brésil, mais la même chose au Pérou, de visiter les champs, etc. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait la particularité de Veja et de vos relations avec Veja versus une autre marque plus conventionnelle avec laquelle vous travaillez, puisque vous travaillez avec de nombreuses marques de mode?
Yes, of course. At the beginning, most of the relationships that we had with our clients were a typical supplier-client relationship. They come, they buy, they go, and that's basically it. They make a visit once or twice a year, take a lot of pictures in the fields, and that's it. When Veja came, it was completely different. It was, as Francois was saying, a very long-term relationship, and where we got to know each other for, I think, 6-7 years before doing any business. And we started working together and putting goals to our relationship in terms of commitment, forecast, what we wanted to obtain, not only looking at a product, but looking at how to help a region or a farmer, and then they will find out what product to use in order to make that work. I think that changed our view of having clients to having partners. Nowadays, based on that model, we have the luxury that we choose our clients, which are our partners, and we work with a small number of companies. Not everyone that comes knocking at the door and trying to buy something spot, but companies that are actually committed to helping the farmers, the workers, and seeing that what they are paying extra is actually going to everyone that is involved in the supply chain. So that's now our way of doing things, and that's basically thanks to what Veja proposed at the beginning.
Oui, donc au début, quand on a fondé l'entreprise, les relations qu'on avait avec les clients, c'était plutôt des relations fournisseurs-clients classiques, c'est-à-dire qu'ils achetaient des produits et basta, ou ils venaient peut-être une fois par an, prendre des photos dans les champs et puis ils repartaient. Veja, depuis le début, ça a été différent. Ça a été une relation de long terme, on s'est connu 6-7 ans avant vraiment de commencer à faire du business. Et dès le début, on a fixé des objectifs et des engagements communs. On a vraiment une vision partagée d'où on veut, vers où on voulait aller, pas juste dans les produits qu'on voulait faire, mais comment on voulait aider les gens, les familles avec qui on travaille. C'est passé d'une logique client à une logique partenaire, et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce qu'on a le luxe de pouvoir choisir nos partenaires, et on travaille exclusivement avec des entreprises qui sont engagées, qui veulent comme nous aider les travailleurs, et qui voient et qui comprennent que l'argent qu'ils paient, le supplément de prix qu'ils paient pour notre coton, va vraiment aider les gens qui font la valeur ajoutée de nos produits.
Alors, Orlando, tu disais à l'instant, ce qu'ils payent en plus a des conséquences sur la vie des agriculteurs. La façon de fixer le prix au Pérou, le prix du coton est différent de celle du Brésil. Est-ce que, peut-être, François Guilin, tu peux nous en parler, nous expliquer comment ça marche, à quoi ça vous engage, et également, qu'est-ce que vous faites en cas d'importantes variations, notamment climatiques?
Oui, alors je crois que c'était... Après, peut-être Orlando pourra expliquer vraiment... C'est vrai que nous, au Brésil, on s'est lancé dans un système qui est basé sur une histoire qui est brésilienne, où il y a beaucoup de coopératives. Donc du coup, c'est des forces qu'on pourrait dire presque politiques, les coopératives. C'est qui représentent les familles et qui du coup... ça nous a semblé assez naturel de débattre du prix... comme ça, avec le Pérou a une autre histoire où les producteurs sont beaucoup plus indépendants hein, de ce que j'en comprends, et du coup ils décident de façon individuelle, et ce qui du coup influe sur la manière dont ils font les prix. On en parlait dans le train tout à l'heure, donc Orlando va peut-être pouvoir nous expliquer encore mieux ça.
Yes. Brazil is different, but in most countries, the price is set by an international commodity price, which is the price as conventional, and then you have premiums on top of that price. So you have a premium for being organic, a premium for being fair trade certified, another premium for being ROC or regenerative certified. The base price, we cannot set it or we cannot negotiate it because it's set by the local market at time of harvest and it changes every 2 hours. So you need to pay what everyone is paying, otherwise the farmer will take their cotton somewhere else and forget about future premiums. They need the cash to pay whoever is harvesting at that time. So that's the reality in Peru, at least, and I think India is the same thing.
Oui, donc le prix, en fait, le Brésil est un modèle un peu différent. Et au Pérou, comme dans beaucoup de pays, le prix est fixé par le marché parce que le coton est échangé au niveau international. Il y a un marché international du coton. Et en sus de ce prix de base, vous payez une prime pour bio, une prime pour commerce équitable, une prime ROC régénératif. Mais le prix de base est fixé par le marché et ça change toutes les deux heures. Donc il faut payer l'agriculteur ce qui est le prix de base parce que sinon il va oublier les avantages que vous payez. Il va aller chercher le prix du marché actuel parce qu'il faut payer ses ouvriers. C'est comme ça au moins au Pérou et je crois que c'est pareil en Inde aussi.
Et alors concrètement, est-ce que tu peux illustrer ce que représente cet engagement financier notamment pour les familles et pour les agriculteurs ? Il y a notamment une jolie histoire avec un projet de nursery. Tu peux nous en parler ?
Yes, sure. I think that the farmers, more than the financial benefit that they can get by being part of the program, they give a lot of value to being and feeling part of a community. Having someone from our team visiting every week, listening at them, hearing at them, not only giving recommendations about the farm and the field and the health of their crops, but someone feel that there's someone that cares about them. And that's extremely important. And I think that they value that more than you would think. The other thing is that in order to get this sense of community, what we try to do with them is empower them to create additional sources of income. Some of them, we train them to do fertilizers, organic fertilizers, and after using it for their fields, we train them financially so they can sell it to others, so they can get an additional source of income. I think that's the idea of the program, empowering farmers to make them get out of poverty with the crops that they currently have. In terms of the nursery, yes, what we did with some brands and with some of these premiums that we received is build a nursery for 2 to 4 year olds in the middle of the farms, because we were seeing that many people at time of harvest didn't have where to leave their kids. So it was common to see little babies of 2 or 3 years old sleeping at 30 degrees Celsius in the border of the fields. So we started building this. We put a teacher, which is the daughter of one of our long-term farmers, to do the project. And nowadays, she's a leader of the community, and 6 other nurseries have called her to see if she can get the funds through us to replicate this in different communities. And just to give you a sense of family, the other daughter of the farmer started with us 10 years ago working as an intern, and now she is the head of the office in the south that looks at these farmers and has 30 employees at her charge.
Je sais. OK, je pense que les agriculteurs, ceux qui apprécient encore plus que l'argent extra supplémentaire qu'on leur donne, c'est le sens de communauté. Et ce sens de communauté, c'est qu'une membre de notre équipe va leur rendre visite chaque semaine avec des conseils, mais c'est aussi, c'est plus des conseils, c'est une relation de confiance qui se forme. Et pour nous, cet esprit de communauté, c'est pour, afin d'autonomiser nos partenaires, c'est de leur aider à cultiver d'autres sources de revenus, avec toujours l'idée d'agrandir leur autonomie pour sortir de la pauvreté. Pour vous donner un exemple, on les forme pour créer des engrais bio.
Et ensuite, une fois qu'ils sachent faire des engrais bio et qu'ils peuvent utiliser sur leur champ de coton, on les aide à les vendre ailleurs, à d'autres agriculteurs, pour avoir notre source de revenus. Et puisque vous avez posé la question sur la nursery, notre crèche qu'on a créée, on a créé une crèche pour les enfants des travailleurs dans les champs, parce qu'on a remarqué qu'il y avait une manque vraiment de garde d'enfants pour ces travailleurs qui avaient souvent des enfants de 2-3 ans et on voyait dormir au bord d'un champ de coton qui fait 30 degrés dehors. Donc on a créé une crèche avec une animatrice qui est la fille de quelqu'un qui travaille avec nous depuis longtemps. Ça a été un grand succès. Elle a été ensuite contactée par 6 autres crèches et maternelles dans la région pour voir s'il n'y avait pas moyen que nous on finance des projets similaires dans d'autres champs. Et pour encore renchérir sur le côté familial, à l'autre fille, donc la prof, l'animatrice, la crèche, une fille d'un de nos travailleurs, son autre fille a commencé avec nous il y a 10 ans en tant que stagiaire et elle est maintenant chef de bureau, notre bureau dans le sud du pays, avec une trentaine d'employés.
Donc on voit bien l'intrication des bénéfices environnementaux, sociaux, en termes d'indépendance économique, de santé et d'éducation, globalement des populations locales. Et ça illustre la notion de holistique avec laquelle on a démarré cette conversation. François Guilin, tu as peut-être un témoignage récent à nous faire d'un de tes précédents voyages au Pérou, avec ton équipe ?
Alors malheureusement au Pérou, ça fait longtemps que j'ai pas pu y aller parce que on devait y aller en mars dernier et il y avait des petits problèmes politiques donc on n'y est pas allé, mais Luciana y est allée très récemment donc je pense qu'elle sera à même de répondre à cette question.
Yes, sure. In April this year I was in Peru and I was like visiting all the farmers and then I met Luisa. Luisa is a farmer, and she was like harvesting her cotton. And then in the end of the harvest, I was like just talking with her to understand how is it going. And usually I always do like this type of questions when I'm in the field. And then she came to me and she told me, Lu, do you know like 2 years ago when you was here, you asked me the same question and I told you that I'm happy because now with regenerative cotton, I have a new income, so I can see like the improvement in the field. But this year, I am much more happier. And then I asked, wow, why? And then she told me, do you know, because like she has 2 daughters, and she told me that in the past, the daughters were like looking for informal work in a urban area. And now they decided to stay in the field working with her because like they could see like the way that the regenerative cotton, the producer, is changing their life. So then she told me, for me, this year, the regenerative cotton is much more than economic driver. The cotton like strengthened my family ties. So this is like a recent story from Peruvian.
Oui, je peux partager une histoire récente parce que j'étais au Pérou au mois d'avril cette année et je me rendis sur les fermes pour voir comment ça se passait. Je discutais, j'aime bien discuter avec des gens et je discutais avec Luisa qui récoltait le coton et je lui demandais comment ça se passait. Elle m'a dit que très bien, mais il y a 2 ans vous m'avez posé la même question et j'avais dit que j'étais contente parce que le coton régénératif, ça nous donne plus de revenus, ça nous aide à faire des améliorations sur la ferme. Maintenant, je suis encore plus contente parce que Luisa a 2 filles et auparavant, ses filles partaient en ville, dans les grandes villes, chercher du travail. Et plus récemment, voyant les bienfaits du coton régénératif, elles ont décidé de rester à la ferme et d'aider parce qu'ils voient plus d'opportunités. Ça a vraiment changé la vie et ça a renforcé les liens familiaux.
Est-ce que tu peux, au Brésil, cette fois-ci, nous illustrer ta journée type, tu es vraiment très proche, tu as à la fois un travail de bureau, de gestion, mais un travail de terrain aussi, tu es très proche des différentes familles. À quoi ça ressemble une journée dans la vie de Lou?
Well, I do an amazing working, but yeah, as I mentioned before, like I'm leading the cotton, the rubber project. So usually like half of my day, of my month, I am on the field. So I'm also like building and maintaining these relationships with the farmers. And it's not only about me, like we have a team and we have team that we have people that it's living in different places of Brazil. So I stay like more than my time in doing this conversation and also visiting and thinking together how can we improve their life. And yes, and I, as I mentioned before, like our work goes like beyond the cotton, you know. So we understand that we need to build and maintain this relationship because in the end, like everyone has the same goal. So this is like my journey looks like in Brazil. And of course, like travel around Brazil, going to Peru, going to the Amazon forest. So this is why sometime when it's possible, my little one is also traveling with me to understand like the way that I believe that we can transform the world.
Oui, donc, comme je dis, je gère le sourcing du coton et du caoutchouc aussi. La moitié de mon temps est passé sur le terrain, à nourrir les relations qu'on a avec nos producteurs. Et j'ai une équipe aussi qui m'aide dans ça, l'équipe basée dans les régions différentes du Brésil. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup de coordination entre l'équipe. Parce que, en fin de compte, notre travail, ça va au-delà du coton. Parce qu'on a des objectifs sociaux, on voit plus loin. Et je passe beaucoup de temps à voyager un peu partout en Brésil et au Brésil, dans l'Amazonie, quand possible. Et dès que possible, j'aime amener ma petite fille avec moi, parce que pour qu'elle voit, qu'on comprenne ce qu'on fait, parce qu'on est en train de transformer le monde.
Alors peut-être je peux apporter un peu un exemple visuel. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, mais qu'est-ce que vous faites avec ces réunions, machin et tout. Et en fait, souvent, on va très très loin, donc on va jusqu'à des villages qui sont reculés pour en fait passer des journées enfermées dans une pièce à une vingtaine ou trentaine de personnes, généralement en cercle, et on discute en fait. Et chacun raconte un peu comment s'est passée son année, sa récolte. Et ensuite, de cette discussion, évidemment, chacun apporte son point de vue. Donc nous, on apporte les nouvelles de l'entreprise, à quoi a ressemblé notre année, quel va être le contrat, enfin, est-ce qu'il y a eu des problèmes de qualité, des problèmes, ceci, cela, de livraison, et à quoi va ressembler l'année d'après. Mais c'est beaucoup, beaucoup de discussions, en fait. C'est pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, on va parfois visiter les champs, mais en fait, ça passe par énormément de moments d'échange qui concrètement sont des journées à passer à discuter avec les gens. Et c'est vrai que ça va au-delà du coton. Et une petite anecdote, une année où il y avait vraiment une sécheresse importante au Brésil, on n'avait quasiment pas acheté de coton. Enfin, en tout cas, il y a une communauté où on n'avait pas acheté de coton parce qu'il n'y avait pas de production. Et du coup, moi, j'ai annulé mon voyage. Et Val, qui travaille toujours avec nous, est revenu, enfin, m'a appelé. Deux semaines après la date qui était normalement convenue, il m'a dit mais en fait les producteurs ils veulent nous voir. Et je dis mais en fait pourquoi on n'a pas acheté et tout. Mais non c'est important, on doit y aller en fait, c'est le lien doit être maintenu. Et donc ça montre bien que c'est pas que une histoire d'y aller pour acheter en fait, c'est y aller pour prendre la température, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, voilà. Donc c'est une relation qui va bien au-delà de, et ça c'est vrai que c'était un peu une surprise quand même, on s'attendait pas à tout ça quand on a créé Veja. On s'est retrouvé pris dans une histoire qui est bien au-delà d'acheter des matières.
Et c'est aussi une curiosité pour les autres marques qui vous observent. Vous faites aussi figure de, si ce n'est d'exemplarité, en tout cas d'inspiration, parce que c'est vraiment pas une manière conventionnelle de procéder.
Je rigole parce que c'est vrai qu'à un voyage, j'ai emmené mon petit copain.
Je vais nommer les marques qui.
Et lui, il me dit mais vous prenez le bateau pendant deux jours pour vous enfermer dans cette maison à discuter pendant, et en plus pendant quasiment deux jours, il me dit c'est chiant, parce qu'en plus il ne comprenait pas ce qu'on racontait. Et j'ai dit mais en fait c'est ça ma vie en fait.
Et alors Orlando, un peu le même exercice mais sur une autre fenêtre temporelle, toi c'est plutôt ton année est rythmée par les saisons, donc à quoi ressemble une année dans ta vie professionnelle?
Well, it varies a lot, but I usually try, and I'm not able to all the time, divide my year into parts. The first part of the year, I spend it traveling around Peru, looking at the different offices that we have. We have four offices outside of Lima, each in order to serve the four different valleys where we plant the cotton. And at that time of the year, we also have audits. We have I think 14 audits this semester of different certifications, EcoCert, Control Union, etc., that go for 3, 4, 5 days to verify that what we are doing is actually being done in the right way. And my second part of the year, I usually travel internationally. So I go to conferences, visit clients, try to secure if we have any excess cotton demand from our current partners, etc. So it's very, it's two hats. No, one is the farming and the other is basically the commercial part.
Oui, j'essaie quand je peux, c'est pas toujours possible, mais j'essaie de diviser mon année en deux parties. La première partie de l'année, je vais passer au Pérou, à rendre visite au bureau. On a 4 bureaux en nord de Lima, chacun desservant une région de production du coton. Et aussi, pendant cette période de l'année, il faut savoir qu'on a nos audits annuels, EcoCert, EBO, etc. Chaque audit peut durer 3 à 5 jours. Deuxième partie de l'année, c'est là où je voyage internationalement. Je participe à des conférences, je rends visite à des clients et si on a du surplus, j'essaie de l'écouler. En gros, les deux côtés, les dimensions de mon travail, l'un côté l'agriculture et la deuxième partie, la vie de commercial.
Oui, on l'a mentionné tout à l'heure, tu fais partie du board de Textile Exchange, donc une organisation internationale qui prend un petit peu le pouls des industries textiles dans le monde. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton sentiment sur la façon dont les choses évoluent, en particulier dans le coton, et quel serait le scénario idéal dans 10 ans, par exemple?
Well, we are trying, and it's difficult because not all brands are as receptive as Veja or Patagonia or some of other partners. But we have a challenge called the Climate Plus Challenge in the textile exchange. And the idea is to reduce greenhouse emissions by 45% by the year 2030. And the way of doing that is choosing the right materials when you make your clothes or shoes or any garment. By switching from conventional to organic, organic to regenerative, or synthetic to natural, we are doing a matrix in which each company can measure how much they are reducing their emissions. So the idea of this challenge is that most companies in the world should have a roadmap towards 2030 and see how they will reduce their emissions worldwide. My vision is that we can convince more companies to be part of that and that other industries follow so we can actually don't go above the 1.5 Celsius that we need to by that time.
Oui, faut commencer par dire que malheureusement, c'est pas toutes les marques qui sont aussi réceptives à ces idées que Veja, Patagonia et autres. Mais avec Textile Exchange, on a récemment lancé notre défi Climate Plus, avec un objectif phare qui est de réduire les émissions des gaz à effet de serre de l'industrie textile de 40% d'ici 2030. Et pour ce faire, on se concentre sur les matières premières, parce qu'en faisant la conversion de coton conventionnel vers le biologique ou vers le régénératif, on peut facilement, immédiatement réduire les émissions. On a produit une matrice qu'on fournit aux entreprises pour les aider à calculer les réductions d'émissions rendues possibles pour changer ces modes de production. Donc, ma vision, mon espoir pour l'avenir proche, ce serait d'avoir plus de participants, plus d'entreprises qui participent à ce défi et qu'on pousse tous dans la bonne direction, qui est d'essayer de maintenir le cap de 1,5 degré de réchauffement climatique.
Alors j'espère qu'on aura réussi à faire la démonstration de vos nombreux engagements à travers cette conversation. C'est très important de communiquer au sujet du régénératif et en même temps c'est compliqué parce que ça devient un petit peu un buzzword comme l'était le bio il y a quelques années. François Guilin, tu peux nous dire comment est-ce que chez Veja vous avez l'intention de partager ces notions auprès de votre communauté? Vous avez plutôt une culture de la discrétion. Comment est-ce qu'on fait pour en parler aux consommateurs? Pour inspirer idéalement d'autres marques aussi.
En fait, c'est une question très difficile parce que c'est vrai que c'est un mot. Généralement, on n'aime pas les mots valise. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout les mots comme sustainable ou enfin voilà durable. C'est pas trop ce que ça veut dire. Donc, c'est des mots qui sont un peu interdits chez Veja. D'ailleurs, quand Orlando est venu nous voir, on a un projet régénératif. Il dit, oui, c'est quoi quand même? Et là, il nous dit non, c'est ROC, Regenerative Organic Certified. Il y a trois certifications qui se. Enfin, on a vu que c'était un truc sérieux. En fait, nous, on ne communique pas généralement beaucoup sur les certifications. Ce n'est pas quelque chose qui passionne les gens. Je pense qu'on communique. Enfin, on essaye plus de raconter ce qu'on fait, d'être transparent, d'ouvrir les. Voilà, Veja, ça veut dire regarde. C'est un peu l'idée de base, quoi, de se dire qu'est-ce qui se cache derrière la paire de baskets. Après, il y a des niveaux de curiosité différents. Selon les gens qui achètent nos chaussures, et c'est très bien, il y en a qui s'en fichent un peu, il y en a qui s'intéressent un petit peu, il y en a qui s'intéressent un petit peu plus, et donc on a un peu du contenu selon, on va dire, le degré de curiosité. Donc on a un site internet qui est hyper vaste, où on peut, si on est vraiment un dingue des certifs, on peut aller chercher les documents et aller les regarder et tout, donc ça on a. Et puis, en revanche, on essaie d'expliquer à ceux qui veulent comprendre, en gros, de façon un peu plus simple. Mais c'est vrai que plus on se développe, plus on a des projets compliqués sur le coton, mais sur le caoutchouc, on a aussi plein de certifications dont on ne parle pas. Voilà, ce qu'on essaie, c'est d'essayer de surtout partager le côté aussi humain, quand même, de cette aventure, essayer de donner envie, parce que, comme dit Orlando, il faut convaincre d'autres marques. Et on ne pense pas qu'on va les convaincre avec des chiffres ou avec des certifs, mais plutôt par les gens qui travaillent chez nous, qui, je sais pas, un jour, on parle à d'autres gens, qui disent, bah voilà, c'est génial, je reviens d'un voyage, on a vu ça, on a fait ci. Enfin, voilà, on croit plus à cette force-là, et la force des images, la force des vidéos, parfois, valent, je pense, plus que des certifications. Mais pour nous, c'est hyper important d'être certifié, parce que c'est un gage de sérieux de tout ce qu'on engage. Voilà.
D'avoir des ambassadeurs de proximité avec des baskets aux pieds. J'ai envie de conclure cette table ronde avec la notion peut-être de « not all cotton ». Si vous avez un truc à retenir, c'est coton et coton, attention, le bio c'est bien, l'agroécologie c'est encore mieux et le régénératif c'est là où il faut qu'on aille. Est-ce que vous auriez un take-home message s'il y a une chose que vous vouliez que les gens retiennent ce soir? Chacun votre tour. Ça peut être aussi simplement des remerciements et après on fera la place aux questions.
Well, so yeah, I think that the message that I would like that you keep in your mind that is the one that we are always like asking for ourselves in Veja is like try to know who are the people that are working behind each raw material, each product that you are buying. Like, it's not only about shoes, but about clothes, about food. So as we can see, like, we are changing lives. So it's really important for you to keep these questions in your mind. And I usually say that I really believe that fashion is a social and also like a political movement. And I think that we can use it to contribute it for a more equal world. So I think that this is the message that I would like to leave for you.
Okay, from my side.
Vite fait. Oui, s'il y avait un message à retenir, je pense que c'est une question, plutôt une question qu'on se pose plus souvent à Veja, c'est qui produit vraiment? Qui produit les matières premières, les produits, la nourriture qu'on consomme tous? Qui sont les gens derrière? Et parce qu'on croit vraiment que la mode a une puissance sociale et même politique, que ça peut être un levier pour le changement, pour travailler ensemble pour un monde plus juste.
Well, basically, I wanted to say that we all know that the environment is rapidly deteriorating and that it's our fault. Besides the social component on the products that you buy, the materials that get into the product are extremely important. You need to know that you are an agent of change to the choices that you make and the decisions that you make when purchasing a product. Who are the people that are behind and are being affected by your choice? and how you are changing their lives. You can change their lives by your decisions with your purchasing power. Do your homework. You decide who you're giving your money to, and if you can't find that information, if it's a black box like it usually is, it's because probably the impact is not positive. So do your homework. That's it.
Oui, je dirais que pour le message final, nous savons tous que l'environnement se détériore et que c'est de notre faute. Et évidemment, c'est important le côté social de notre travail, mais pour environnemental, le choix de matière, le choix de ce qu'on achète est primordial. Et avec des bons choix, tu peux changer les choses. Individuellement, chacun de nous, on peut changer des vies. Donc, renseignez-vous et décidez bien qui aura votre argent quand vous achetez un produit, vers qui ça va. Cherchez à savoir les informations, ce qui est derrière, parce que si vous ne trouvez pas l'information sur le mode de production, sur les gens qui le produisent, c'est probablement parce que les infos ne sont pas bonnes.
Est-ce que tu as un message à faire passer?
Plutôt une question, ça rejoint pas mal ce que dit Luciana, en fait, de se poser la question de qui est derrière. Moi, je vais peut-être partager une anecdote, mais un de mes salariés, Marlon, qui hésitait à aller voir des producteurs, en l'occurrence, c'était pour la filière cuir, donc des éleveurs. Et il me disait, là, il y a un type d'éleveur comme ça, un peu industriel, machin, nanana. Puis là, il y a l'autre. Et puis, il me décrivait les situations. Et finalement, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Marlon, où est-ce que t'emmènerais ta fille en week-end? Et finalement, ça, il m'a tout de suite dit « Ah non, mais pas là ». Et en fait, je dis « Bah voilà, t'as choisi en fait ». Et finalement, les endroits où on a envie d'aller, finalement, l'agriculture, qu'on la nomme agroécologie, biologique, régénérative, c'est ça, c'est des endroits où on a envie d'emmener des enfants en week-end. C'est des endroits qui sont agréables, enfin, je trouve que, voilà, c'est une question qu'on peut se poser en plus de qui sont les gens, mais est-ce que les endroits, comment sont les endroits ?
Très bien, alors beaucoup de bon sens et d'intuition. On va prendre quelques questions si vous en avez. D'autres nous sont arrivées de LinkedIn. N'hésitez pas, on peut faire passer le micro. Et d'ici une dizaine de minutes, on va libérer Orlando qui est attendu pour un avion. Oui. Le micro arrive.
Bonjour. Je vous remercie déjà d'avoir partagé votre expérience. J'ai une question par rapport à l'agriculture régénérative. Vous parlez de ne pas épuiser les sols donc par une agriculture intensive. Du coup, quelles sont les cultures que vous utilisez en alternative et quels sont les rendements finalement que vous pouvez obtenir de manière régénérative par rapport au rendement conventionnel?
Je pense que c'est une question pour Orlando.
Yes, in terms of regenerative farming of cotton, we use sweet potatoes as rotation. We use maize, which is basically the yellow corn used to feed chickens. We use beans also, and then we use a mixture of everything. No, we are only allowed to have cotton 2 years in a row. All the others are complementary during the time that cotton is not being grown. But in terms of cotton growth, it immediately, if you are doing it right, it immediately lowers your yield of cotton by 1/3, because one of every 3 years you are not allowed to grow cotton. No?
Merci. Donc, avec la culture du coton régénératif, on plante en rotation avec du maïs, des patates douces, des haricots et d'autres aussi. On ne plante jamais le coton plus de 2 ans d'affilée. Donc voilà, si vous faites les choses correctement, automatiquement il y a une réduction de rendement d'un tiers, parce qu'une année sur trois, il n'y aura pas de coton.
Une personne sur LinkedIn nous demande, relativement à ce qui a été dit, donc la culture du coton dans le monde est celle qui utilise le plus de pesticides, mais c'est comparativement à quelle agriculture? Et est-ce que ça comprend notamment l'agriculture des légumes et des fruits? Peut-être Lou, si tu veux répondre.
Oui,
En fait, c'est vrai que c'est une phrase qu'on utilise souvent. On dit que la culture du coton, enfin la plante, le coton est la plante qui est la plus intensive en pesticides. Donc, je pense que c'est au-dessus de toutes les autres catégories. C'est-à-dire que par rapport à la tomate, la pomme de terre, ou voilà, par hectare, c'est celle qui est la plus gourmande en pesticides dans une agriculture conventionnelle. Je crois que c'est ça la donnée qui est souvent utilisée.
Et je crois aussi que c'est en termes de volume de chiffre d'affaires, en fait, le coton est ce qui rapporte le plus à l'industrie des pesticides. Il me semble que c'est ça. Deuxième question d'Internet aussi, il y en a une ici. Alors, oui.
Tout d'abord, merci et bravo pour le travail qui est fait, c'est assez exceptionnel. J'ai une question peut-être pour vous trois, mais peut-être un peu plus pour Orlando. Je me posais la question, tu l'as mentionné beaucoup quand tu prenais la parole, l'effet du changement climatique aura un impact extrêmement grave sur l'agriculture. Donc stratégiquement, en tant qu'entreprise, vous vous positionnez pour changer et aller encore au-delà de l'organique, enfin du bio. C'est quoi la perception des familles et des producteurs et productrices sur les champs? Est-ce qu'ils sont sensibilisés sur ces questions de changement climatique ou c'est vraiment le driver pour changer, c'est cet aspect de communauté, de sentiment d'appartenance, etc.
Yes, the climate change effect varies depending on the region. So we have in the south lots of drought that can make farmers miss a season of planting. In the north we've had intense rains, which has brought inundations to many cotton fields, losing the fields. The farmers, in a way, are trying to cope up with this through us. So as no one insurances them, gives them an insurance, we are doing 5 years plans with them. When we give them money, like in this case, if they lost their crop, we refinance them for 5 years and continue working together with them in order to make them be able to recover from a particular situation. I think that schemes like this are going to be more important with a constant climate change. And in countries like Brazil or Peru or India, it's very difficult to find someone that will insure small farmers against environmental damage. No?
Oui, en fait, les perceptions du changement climatique varient un peu selon les régions. Au Pérou, au sud, il y a des sécheresses assez extrêmes, mais au nord, récemment, on a eu des pluies diluviennes et des inondations. On a perdu des récoltes comme ça. Sachant que les agriculteurs fonctionnent sans assurance. Donc, ce que nous, on leur donne, c'est une stratégie sur 5 ans. On s'engage sur 5 années, même s'ils perdent une récolte. On continue à financer pendant 5 ans qu'ils puissent replanter et redémarrer. Et je pense que dans le futur, on va avoir besoin de plus de ça. Sur des pays comme le Brésil, le Pérou, l'Inde, où le coton pousse, il y a très très peu d'assureurs qui veulent assurer les agriculteurs contre les effets du changement climatique.
Je vais prendre une dernière question.
Je vais peut-être juste donner un élément de réponse. Parce qu'avec Luciana et Val, on est allés en Égypte à la fin de l'année dernière, et on a trouvé ça très intéressant, la façon dont l'organisation qu'on a été visiter traitait de ce problème. Et en fait, c'est sous l'angle de la justice sociale, c'est-à-dire c'est de se dire, les producteurs avec lesquels on travaille, c'est des victimes, c'est les premières victimes du changement climatique, alors qu'ils n'y contribuent pas du tout. Au contraire, ce sont ce que l'appelait Sekem, ils ont appelé les climate heroes, voilà, les héros du climat. Et du coup, il faudrait commencer à les rémunérer pour ça. Donc ça va un peu dans l'optique des projets carbone et compagnie. Mais tout simplement, de se dire, mais quelle est la partie, on en parlait avec Orlando tout à l'heure, sur l'agriculture régénérative, au-delà de la production de coton, quel est le service que cette agriculture qui régénère les sols donne à la communauté, à la société, et en fait se dire à quel moment, enfin comment on va rémunérer ces services. Donc voilà, c'est une manière de les voir non pas uniquement comme des victimes, mais enfin comme des victimes, mais aussi comme une partie de la solution, puisque aussi bien ces agriculteurs qui font de l'agriculture régénérative
que des gens qui récoltent du caoutchouc ou enfin voilà, il y a ou des gens qui font du bio en Égypte sont une partie de la solution, quoi. Donc à quel moment on les rémunère pour ça?
Ça fait la transition vers ma dernière question à laquelle il faudra une réponse succincte. Elle est pour toi, François Guilin. Une personne nous demande si le lien que vous avez avec ces familles, ces agriculteurs, donne envie à d'autres de travailler avec Veja. Si oui, est-ce que vous avez besoin de nouveaux agriculteurs, de nouveaux fournisseurs, et comment est-ce que vous les trouvez?
Ah oui, alors ça c'est sûr que le lien fait le succès. Enfin, il n'y a pas que le lien, il y a aussi le succès. Les agriculteurs ne viennent pas juste à des réunions. Il faut quand même que ça marche pour eux. Il faut que l'accompagnement technique que nous donnons, que les ONG donnent, porte ses fruits, c'est-à-dire que ce soit rentable. Donc il y a le côté fun, mais il y a évidemment le côté rentabilité et santé, enfin voilà, tous les impacts positifs. Mais c'est vrai que nous, la dynamique qu'on crée avec les agriculteurs, et notamment on crée des rencontres autour du coton tous les ans, enfin ça fait la deuxième année qu'on va organiser ça, où on invite les gens de toutes les communautés à participer, et notamment les communautés qui viennent de rejoindre le projet. Et en fait, le fait de participer à deux jours, comme ça, un événement ouvert où les gens partagent leur expérience, ils reviennent dans leur village, et là, c'est sûr que ça fait... Enfin, le bouche à oreille fonctionne à merveille, quoi. Donc, c'est sûr que c'est un truc qui fait tache d'huile, parce que, oui, on s'entend bien.
Donc, encore une fois, la notion d'ambassadeur, bah, c'est ce qu'on vous demande de faire à votre tour dans vos... Ah, il y a une dernière question. On a le... Parce que on a un timekeeper. OK pour une dernière question.
C'est pas grave, Orlando va rater son avion.
Très rapidement.
You're going to miss your plane? It's for the good sake.
Very good cause. Bonsoir. Donc moi, je suis étudiante en mode et ma question, donc j'ai bien compris le message autour de l'importance de la provenance et de savoir d'où viennent les matières premières. Mais en fait, concrètement, quel conseil vous pourriez donner à une future marque pour trouver les bonnes adresses et trouver où se fournir de manière responsable, quoi, plus responsable?
Je pense que c'est peut-être des portes ouvertes que je vais enfoncer, mais évidemment aller à des salons et aller à des journées de rencontres en France, notamment il y a des filières de lin, de chanvre, où on peut rencontrer vraiment assez facilement des agriculteurs. Il y a Chanvre Mélois qui est pas très loin d'ici, près de La Rochelle. Enfin, en fait, plus on rentre en contact avec les gens au niveau concret, plus ça déclenche une étincelle, une passion. Donc, pour moi, c'est le premier conseil, c'est de rencontrer des gens. Donc, c'est pas forcément évident d'aller à l'autre bout du monde, mais au moins d'aller rencontrer les acteurs économiques. Donc, ça peut être des fileurs, des tisseurs, des producteurs. Voilà, essayer de prendre son téléphone. Et souvent, c'est dans ces rencontres un peu informelles, comme les salons, c'est un peu plus facile parce que du coup, on peut assez facilement parler au patron, à la patronne, ou au producteur, à la productrice. Enfin, c'est des bonnes occasions, je trouve.
Ça me paraît être une bonne conclusion, de déconstruire la chaîne de valeur, d'aller rencontrer les êtres humains derrière les projets. Et si c'est, comme disait Orlando, une black box, eh ben, c'est un no-go. Merci infiniment pour votre temps, le partage d'expérience, pour ce que vous faites aussi au quotidien. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à écrire à Veja sur les réseaux si vous avez des questions. Et puis, répandez le message désormais. Bonne soirée à tous et à toutes.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.